Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer?
On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire?
Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui, ces dernières décennies, ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions.
Je ne crois pas au modèle Amish.
How dare you?
On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Ah, il fait chaud! Oh là là, je suis au bout de ma vie! Ça fait une heure que je marche, le soleil frappe si fort et il n'y a plus rien dans ma gourde. J'en peux plus! Pourquoi est-ce qu'on n'a rien anticipé? C'était pourtant si prévisible, on nous avait prévenu qu'il fallait réagir.
Pourtant, Camille le sait, elle doit le faire, sa mère l'en a supplié. Avec la rupture d'approvisionnement des pharmacies, les Lillois doivent maintenant se rendre dans une base militaire à 2 heures de marche de leur lieu d'habitation. Jean, le père de Camille, est souffrant. Seul un peu de morphine pourrait le soulager. Et Camille le sait, redoublant d'efforts, elle reprend sa marche.
Allez, plus que la moitié. Fais-le pour papa. 30 km à pied, ça use, 30 km à pied, ça use les souliers. 31 km à pied, ça... Oh! Oh! Une rivière! De l'eau! Enfin! Dieu merci!
Aveuglée par sa soif, Camille ne se rend pas compte qu'elle se rapproche dangereusement du bord. Le soleil l'a tellement attaquée que sa vue se trouble. Ses sens se brouillent, sa patience se perd. Puis, en un éclair, elle bascule. La rivière est bien plus agitée qu'elle ne l'imaginait. Les flots la submergent et en une fraction de seconde, elle se retrouve la tête sous l'eau. Paniquée, elle s'agite, se débat, tente d'appeler à l'aide.
Maman !
Et si la fin c'était pour aujourd'hui ? Puis, alors que l'eau commence à pénétrer ses poumons, elle entend une voix douce et suave.
Camille !
Plus cette voix s'approche, plus elle semble la reconnaître.
Camille !
Puis, transpirant, les yeux écarquillés, elle se réveille, sa mère à ses côtés. Déboussolée et apeurée, peinant à retrouver ses esprits, elle a promis à sa mère de partir à la découverte de nouveaux modes de vie.
Bon, ok, on peut plus vivre dans un monde comme ça qui court à sa perte. Faut que je parte explorer des lieux où on œuvre pour un monde meilleur. Pas question que ce cauchemar devienne une réalité. De rives en rêve, écolieux nourriciers pédagogiques, culturels et solidaires en création. Parfait. C'est où ça? Rumilly? C'est quoi ce patelin? Bon allez, go!
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette.
Ah, je crois que je me suis perdue. Faut que je fasse une pause pour trouver mon chemin. Ah, bah attends. Écolande à 200 mètres à droite. C'est quoi ce truc? Je sais pas si c'est un parc d'attractions écolo ou quoi, mais ils ont sûrement de l'eau. Ok, ça doit être ici. Ah, bah y a quelqu'un. Bonjour! Je m'étais arrêtée pour vous demander de l'eau, mais votre lieu m'intrigue. C'est quoi Écolande?
Cette personne n'est autre que Thomas, cofondateur d'Écolande. Mais laissons Thomas présenter son lieu à Camille.
En fait, nous, quand le site est en construction depuis août 2020, on va ouvrir 18 juin 2021. Donc là, dans 3 mois, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de boulot à faire, mais ça va, on est à peu près dans les temps. Et du coup, ouais. Donc quand le site sera ouvert, il y a 3 pôles distincts. Un pôle tourisme et loisirs, où c'est plutôt des hébergements insolites. Et puis le resto snack bar qui est là, avec un peu d'activité, une barque et puis les vélos, etc. Un pôle pédagogique, donc avec la micro-ferme qui est derrière, on pourra aller voir après si vous voulez. Donc là où il y a une maraîchère bio agréée, le terrain aussi bio, où elle va faire un mandala en permaculture, avec aussi une micro-ferme avec quelques animaux. Donc ça, c'est plutôt le volet pédagogique, pour les petites formations ou plutôt des ateliers d'initiation ou choses comme ça. Et il y a le troisième pôle, c'est le pôle recherche. C'est moi le pôle qui m'intéresse le plus, mais il faut vraiment un système en fait un peu multifonction pour pouvoir être en même temps dans le système et faire en même temps de l'alternatif, mais faire en même temps un truc qui fonctionne aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est un peu multitâche. Et le pôle recherche, du coup, là où le projet de thèse a été déposé à l'Université d'Artois sur la résilience en Hauts-de-France. Donc en gros, c'est la résilience d'un point de vue technique et d'organisation sociale. Comment on fait pour vivre en gros dans un monde post-pétrole avec au niveau de la gestion des ressources et surtout de l'organisation et de l'allocation des ressources. En gros, c'est des grosses questions où nous, on va rechercher ça pendant pas mal de temps. Et donc, sur le pôle recherche, on pourra accueillir par exemple des services volontaires européens, des étudiants. Là, c'est complètement non lucratif en fait. Okay. Le pôle un peu sous le tourisme qui est un peu plus commercial, mais où nous, en même temps, ça fait tourner la boutique et ça permet au projet de vivre en fait. On veut accueillir un maximum de monde ici pour justement commencer cette transition-là. Et l'idée, c'est de leur montrer par l'expérience aussi, parce que c'est ça aussi par rapport à Périne et moi, notre parcours, c'est que nous, ce qui nous a changé viscéralement, c'est l'expérience des voyages et le fait de le vivre. Parce que des fois, on a une idée, on se dit « putain, mais ça devrait fonctionner autrement », et puis après, il y a tout le système, entre guillemets, qui nous rattrape, de se dire « ouais, mais tu sais, si tout le monde le ferait, ça serait déjà fait, nanana, nanana ». Toutes les petites voix dans notre tête, quand on l'expérimente, on se dit « bah ouais, ben non, en fait, c'est vraiment faisable, je me rappelle, je l'ai vécu ». Du coup, c'est ça qu'on veut créer aux gens ici comme expérience. C'est de leur montrer un peu comme s'ils étaient au bout du monde ou dans un endroit un peu dans un monde parallèle où on fonctionnerait complètement différemment et de les marquer, de les toucher comme ça en fait. Alors heureusement, on l'a fait juste avant le Covid, juste avant le Covid. On avait les pré-accords bancaires avant mars. Mais par contre, on est passé vraiment à la création au mois de juillet. Donc là, ça commençait à être compliqué, mais c'était encore bien. Là, aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment difficile, bon, tant que la crise passe. Et ouais, c'était compliqué malgré le fait que j'ai travaillé à la BGE. Que pendant 2 ans, j'accompagnais, je sais pas, une centaine de porteurs de projets. Je connais bien ce monde-là maintenant, monde comptable, banquier, financier, etc. Et je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais au final, c'est passé de justesse, mais vraiment de justesse. En fait, c'est possible, mais il faut vraiment être ultra béton. Pour quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, il va falloir qu'il s'entoure. Soit qu'il s'entoure de professionnels là-dedans, ou soit qu'il se forme, même qu'il s'entoure, qu'il faut qu'il s'y plonge pendant au moins une année ou deux, quoi, parce que c'est costaud, quoi. Si j'aurais un conseil, c'est de rentrer en contact et de commencer à rentrer en connexion et de faire des petites formations ou des petits chantiers. Ouais, c'est ça, ce serait ça le bon truc, parce qu'on rencontre plein de monde en fait, et par le réseau après, on a beaucoup plus d'armes, on a des conseils, on a des retours d'expérience, on a des gens qui l'ont déjà fait, qui peuvent aider, et nous on aidera les gens qui veulent le faire. Ouais, dans 5 ans, moi je me vois encore ici, clairement. Je pense que dans 5 ans, le projet aura fini la partie débutant, en gros, la partie chantier comme là. Là, on va ouvrir cet été, mais on sait que le potentiel n'est pas au maximum, même si il y aura déjà largement de quoi faire. Par exemple, le site, là, il sera jusque la moitié au niveau de la construction. Après, ce sera libre. Mais ouais, dans 5 ans, je pense que le projet tournera bien et on verra peut-être... on pensera peut-être à du développement, c'est-à-dire soit développer ici et avoir d'autres projets pour derrière, ou soit aider à en faire d'autres ailleurs. On pensera peut-être à ça, mais ouais, je pense que pendant les 5 années qui arrivent, là, on a largement de quoi faire ici et développer vraiment ici. Et peut-être qu'on sera peut-être à la vitesse de croisière, je pense. Ce sera un truc comme ça.
Camille et Thomas auraient pu parler des heures durant. Mais notre jeune cycliste en herbe n'oublie pas que Rumi n'est pas la porte à côté. Remerciant Thomas, elle se remet en selle illico presto.
Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes.
Nous sommes toujours en compagnie de Camille qui se dirige vers Humilly pour découvrir le projet de Rive en Rêve. Toujours au guidon de son vélo, cela fait plusieurs heures qu'elle arpente le bitume.
Ah, une belle ferme, des arbres fruitiers, un fournil et un café. Je dois être arrivée.
Camille ne s'est pas trompée. Elle est bien arrivée à De Rive en Rêve. Elle est accueillie par Audrey et Jérôme qui lui racontent leur cheminement pour la construction du projet.
J'avais fait la connaissance, entre guillemets, du mouvement Colibri, de Pierre Rabhi, tout ce mouvement d'oasis en tout lieu, de lieux d'habitat partagé, de lieux nourriciers, de lieux de transmission de savoir. Et c'est quelque chose qui avait vraiment fait écho en moi et j'avais vraiment cette volonté, je me sentais vraiment appelée par ce type d'endroit pour vivre et pour travailler.
L'idée, c'est de créer un lieu collectif de transmission de savoir et de connaissances. Et de manière à ce que chacun reprenne un petit peu plus d'autonomie en fait dans sa vie de tous les jours. Et qu'il y ait un rapprochement avec le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois le monde de la nature, mais aussi dans les liens, dans les rapports humains. On a décidé de s'ancrer ici et pour développer ce projet qui a pas mal d'avantages en fait ce lieu. C'est déjà au point de vue du bâti, il y a 1000 m² de bâti. Il y a une grange de 400 m² qui se prépare en fait à accueillir plein d'activités. On n'avait pas forcément les moyens de pouvoir acquérir justement le bien en fait à titre propre, personnel. Et de ce fait-là, on s'est orienté vers une banque, à nos yeux en tout cas la seule banque éthique de France qui s'appelle la Nef. Et moi ici en fait je développe un projet de jardin forêt. Il y a 1 hectare d'eau de surface.
Le premier projet qui est déjà un petit peu sorti de terre, c'est le projet de fournil que je porte. Qui est un fournil assez engagé, qui utilise que des produits bio, que des produits locaux, et qui est dans une démarche zéro déchet. Là, en ce moment, on est en plein chantier de plantation avec plein de bénévoles là, pendant 5 jours qui viennent nous donner un sérieux coup de main pour planter les 500 premiers arbres. La semaine prochaine, on va installer 100 de nichoirs et de refuges, enfin de gîtes à... pour les petits mammifères.
Et par le biais de chantiers participatifs notamment, déjà ça nous permet en fait d'apprendre à faire et de prendre confiance et de manière à faire soi-même par la suite. Et ce qui me paraît intéressant, et c'est un petit peu notre cheval de bataille aussi en fait, quoi, avoir le savoir c'est bien, mais l'intérêt de le garder pour soi, il n'y en a aucun.
C'est un projet à la fois nourricier, puisqu'il va y avoir beaucoup d'arbres fruitiers, il va y avoir des légumes, il va y avoir des plantes aromatiques et médicinales, des champignons, etc. Et c'est aussi un projet pédagogique parce que l'idée c'est qu'il soit visitable, qu'il puisse être la base d'ateliers, de stages, de formation autour de la permaculture. Il y a du coup une microbrasserie. L'idée c'est de la créer sous forme associative aussi pour que ce soit fait en collectif et que avec les adhérents de l'asso, on puisse faire des brassins et que chacun puisse ensuite récupérer
une partie
de la production. Et puis, sur un volet plus humain, on a un projet de café associatif qui serait en fait un lieu de convivialité, parce qu'un café associatif, c'est avant tout un café où les habitants du village, des villages alentours peuvent venir se retrouver pour boire un café, boire une bière, jouer aux cartes, etc. Mais aussi, ce serait l'endroit où serait concentré tout ce qu'on propose en termes d'ateliers, stages, formations, que ce soit animé par nous, par les bénévoles de l'asso ou par des intervenants extérieurs qu'on ferait venir. C'est un endroit qu'on voudrait aussi ouvert aux familles, aux enfants, donc avec aussi des propositions pour les plus jeunes. Ce café associatif, il permettra aussi la tenue de réunions, pourquoi pas des ciné-échanges, des soirées, des conférences, des petits concerts.
Ce que je remarque souvent, en fait, c'est que on se met des contraintes soi-même, en fait, quoi. On doute beaucoup. Beaucoup trop.
Alors ça demande beaucoup de remise en question, ça demande du lâcher prise, ça demande de se creuser la tête, mais en même temps c'est hyper motivant et c'est ça qui nous fait vibrer. Hein. Mmh. Bah non, c'est pour ça qu'on est là. On est content d'être là et on est prêt à... On n'a pas envie de prouver quoi que ce soit, ceci dit, hein. Ni d'être de vouloir se dire qu'on a un exemple, rien du tout. Nous, on fait ce pourquoi on sent qu'on a une mission. Et après, les gens, ils adhèrent pas. C'est libre à eux, en fait. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, convaincre qui que ce soit. Je dirais que vraiment, là, aujourd'hui, très clairement, je peux l'affirmer haut et fort. Il faut toujours, mais toujours, toujours croire en ses rêves. Mais vraiment. C'est un truc, enfin, je veux dire, pour moi, c'est la base, quoi. Croire en... Si t'as quelque chose qui te fait vibrer, que t'as dans le sang, qui c'est dans tes tripes...
Oser.
Oser et pas se laisser modeler par la société qui va de toute façon tout faire pour empêcher ce type d'alternative d'exister parce que forcément, ça vient à contre-courant et que, du coup, ça va pas dans le sens du mouvement... global, et que là par exemple en même pas 24 heures on a levé 25% de notre campagne de financement participatif, le truc totalement improbable. Si on n'a pas une étoile à regarder et si on n'est pas dans cette direction là à se dire enfin voilà, c'est mon chemin, j'y vais, bah, c'est certain que ça va être plus compliqué, quoi. Et nous on nous prend pour, enfin on le sait, hein, il y a des gens qui nous prennent pour des rêveurs. D'ailleurs, qu'on s'appelle de rive en rêve, ça fait rire certains, bah ouais, ok.
Ça m'empêche que vous les vivez vos rêves.
Ouais.
Après ces nouvelles connaissances et ce bon repas, le ventre plein mais l'esprit léger, Camille retourne chez elle, impatiente de transmettre cette lueur d'espoir à sa famille.
Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons. Et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette.
Exténuée par son périple, Camille arrive enfin à l'île. À la recherche d'eau, deux femmes lui indiquent la fontaine quelques mètres plus loin et lui demandent d'où elle vient pour être si fatiguée. Elle leur explique son périple. Les deux femmes, intriguées par son aventure, lui proposent de les suivre afin de lui présenter leur habitat partagé.
On a 11 foyers organisés sur les coursives. Il y a un mélange de locataires et de propriétaires. Ça vient de notre charte. On voulait la mixité sociale et l'intergénérationnel.
Donc ça fait, c'est le voisin du quai qui a cherché une personne en situation de handicap pour favoriser les handicaps, pour avoir un appartement chez eux. Donc j'ai quitté le foyer il y a 2 ans. Je préfère être... avec les voisins que entourés que pas entourés, donc ce système ça marche bien pour moi.
Et donc nous on a quand même à l'arrivée on a quand même un bâtiment basse consommation d'énergie avec structure bois, 40% au-dessus de la RT 2012, ce qui est relativement intéressant, mais ça veut dire qu'on est assez proche du passif.
On a une charte de valeurs, en fait, c'est ce qui nous a unis au départ en disant ben, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire habiter ensemble. Au début, il y a eu tout un travail de définition sur ce mot, puisque notre idée c'était de faire autrement, mais ça voulait dire quoi pour chacun, quoi, pour vérifier justement qu'on allait au même endroit ou qu'on avait envie d'aller au même endroit, ou en tout cas de faire une liste. On n'est pas obligé d'aller tous vers un même objectif, mais de faire une liste de ben, moi j'aimerais vivre plus écolo, moi j'aimerais vivre plus convivial, moi j'aimerais échanger des services, moi j'aimerais de l'intergénérationnel. Donc on a tout pris, on a tout collecté et puis on s'est dit, ça c'est notre rêve, quoi, allons-y.
Alors ça vient d'un appel à projet de la ville de Lille. Alors en 2011, donc la ville de Lille proposait plusieurs terrains. Elle a toujours été dans ce côté participatif, hein, la ville de Lille a une tradition là-dedans. Et on est deux habitats participatifs à avoir été retenus sur le quartier des Bois Blancs. Et donc c'est un quartier qui est très participatif avec énormément de créativité. Ça pousse un peu comme les idées poussent comme des champignons. Dans le quartier, les composts, les jardins communautaires, les monnaies locales, la bière de quartier, enfin il y a beaucoup de choses. Et la ville nous a aidés au départ, nous a un peu réconfortés, on pourrait dire. Devant la page blanche, on était un peu perdus.
Pendant 2 ou 3 ans au démarrage du projet, par un monsieur dont c'était le métier de nous apprendre à la gouvernance. Okay. Comment on fait pour décider à plusieurs? Parce que là, vous êtes un groupe de 15, vous allez faire comment? Pour choisir un architecte, pour choisir les matériaux, il y a des grandes décisions à prendre à un moment donné dans ce genre de projet. Et pendant 2 ans, on a été formés à la prise de décision collective, au consensus, à la façon d'animer des réunions, à la façon de les écrire, à la façon d'avancer, comment on fait quand il y a des absents, comment on fait pour ne pas remettre en permanence en cause les décisions, toutes ces petites choses, ces petites astuces, comment on fait pour laisser de la place aux émotions, et en même temps aussi pour, et à la rationalité. Enfin voilà, toutes ces choses-là ont été discutées et on a été tous formés à ça, quoi.
Heureusement qu'on a eu la subvention de la région. Sinon, on ne serait pas arrivé à monter un projet comme ça.
On arrête le travail, on reste avec les amis qui se sont construits à des moments donnés et on perd le contact avec d'autres personnes. Donc c'était une façon de vieillir, mais de vieillir aussi avec des gens divers et plus jeunes et aussi dans une approche plus collective.
En fait, on ne se voyait pas. C'est plutôt qu'on ne se projetait pas du coup dans une autre vie, on ne se voyait pas acheter notre maison individuelle avec notre petit bout de jardin et puis une envie de vivre en meilleure intelligence avec les gens qui nous entourent, quoi, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout posséder, qu'il y a plein de choses qu'on pourrait partager.
Ben, moi en fait je crois que c'est la coloc qui m'a inspirée, les colocs vécus des études. Et où à 25 ans, Gilles et moi, on s'est dit comment on peut prolonger ce style de vie qui nous allait bien. Et on l'a tout de suite imaginé. Et en fait, on a lu un bouquin sur l'habitat partagé et on s'est dit on veut faire ça.
C'est passé par des phases un peu euphoriques, on était très contents, on se disait c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, etc. Puis des phases de découragement, parce qu'il y a des moments où c'était long, parce qu'il y a des moments où on se dit mais franchement, ok, c'est un beau projet, ok, c'est chouette et tout ça, mais ça prend des heures, ça prend des heures dans le mois, déjà dans notre temps disponible. Et en plus, la perspective d'emménagement nous était longue.
Ça demande du temps, l'habitat associatif, ça demande du temps d'abord pour le préparer. Il y a eu quand même 5 ans de travail avant.
Ça prend plus de temps parce qu'il faut de la concertation, parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer, que personne ne se sente lésé, que tout le monde ait l'impression de prendre pleinement sa place.
Ah mais ici, ce qui est difficile, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord.
Ouais.
Donc on dit qu'on va plus loin, mais on va surtout beaucoup moins vite.
Une fois par mois, c'est réunion plénière où tout le monde est là et où on prend les décisions importantes pour avancer.
Et moi, j'adore ces conversations. Alors, elles prennent un peu de temps, mais elles existent et elles ont ce pouvoir de faire exister des choses à la fin, quoi.
Ouais, j'aime bien dire que les conflits font partie du package en fait. C'est-à-dire on peut pas rêver d'une vie à 15, à s'échanger des centaines et des centaines de services. C'est inimaginable tout ce qu'on s'échange comme service. D'ailleurs, je sais pas si on te l'a dit, mais on a une sorte de... Premièrement, on a un WhatsApp qui fonctionne à plein, quoi. Et on a aussi un Tricount, une application qui nous permet d'échanger des services sans échanger de l'argent. Physiquement, mais on enregistre tout ça dans une application qui fait les calculs et les équilibres de qui doit combien à qui. Et on a dépassé, mais en un an, les 10 000 euros d'échange de services, parce que à force de se prêter des voitures, des bouteilles de lait, de se faire les courses les uns pour les autres, tu vas acheter un poulet rôti ici, si tu le proposes aux autres voisins, tu reviens avec 4 ou 5 poulets rôtis.
On se rend des services très régulièrement, on ne peut pas emmener les enfants à l'école, on emmène les enfants les uns des autres à l'école, on se les garde le temps, si on doit se libérer un petit peu dans la journée, ben on peut les garder. Le fait de savoir qu'ils sont sous la surveillance d'un autre adulte dans le jardin, ben ça libère aussi un peu l'esprit pour faire d'autres choses, pour lire ou pour faire des choses comme ça.
Tu peux vite profiter des allers-retours des uns et des autres, du matériel des uns et des autres. Ici, c'est incroyable, on a une armoire à bricolage inédite que j'aurais jamais pu constituer par moi-même.
C'est génial de profiter des idées des autres, de l'énergie des autres, en fait. Où tout à coup, quelqu'un a l'énergie de lancer un barbecue, j'aurais jamais eu le courage. Et en fait, t'en profites, parce que maintenant, il est allumé, t'as plus qu'à mettre tes saucisses dessus.
Les enfants, ils jouent énormément entre eux. C'est vrai que moi, ça me fait toujours rigoler quand on revient de vacances, par exemple. Ils sont autant contents de retrouver la maison que de retrouver les voisins. Et puis, ils vont souvent les uns chez les autres aussi.
Et j'ai même ce plaisir à la solitude, ce qui peut paraître un peu étonnant dans ce genre de choix de vie. Mais ça m'a jamais paru incompatible, en fait.
Pareil, préserver du coup des moments de vie de famille aussi. Mais en fait, ça marche comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on est en capacité de tous entendre que bah non, pas ce soir. Ce soir, on reste en famille.
Moi, j'ai aussi appris à dire non ici, effectivement. On dit non souvent. Parce qu'en fait, il y a tellement de sollicitations. Trouver cet équilibre, mais je trouve que la recherche est même magnifique entre le jeu, entre soi et nous, quoi, et le côté social. Et en même temps, c'est un équilibre permanent à rechercher, mais qui est un bel exercice, quoi.
Moi, je trouve, enfin, d'un point de vue éducatif, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir d'autres modèles de fonctionnement. Je pense que tous ensemble, on est un peu plus résilients. Je pense que tous ensemble, on est un peu plus sobre aussi en termes de consommation, en termes de plein de choses, parce qu'on fait des économies d'échelle, hein, tout simplement. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de transmettre aux enfants, quoi.
C'est un peu comme un projet de couple, hein, mais différent. Et c'est un projet de famille, un peu, mais différent. On a vraiment une nébuleuse, en fait, de projets qui se met en place. Alors, parfois, ça va se faire avec des bailleurs, parfois, ça va se faire avec des mairies, ou les deux, parfois, ça va se faire seul. Voilà, il y a vraiment une... Tout est libre, en fait. Il y a cette liberté, toute cette créativité qui est intéressante. Et on s'aperçoit que les projets peuvent se décupler de manière infinie. Ça peut être des projets périurbains, ça peut être des fermes qu'on réaménage, ça peut être des maisons qu'on veut partager avec un autre couple, deux autres familles. En fait, on est en train de participer à une explosion, en fait, des initiatives.
Waouh, mais quelle journée ! Tellement de personnes inspirantes, tous ces lieux alternatifs, et tout ça en si peu de temps, alors que ça faisait une éternité que je stagnais. Je me sentais si seule face à l'urgence d'adapter nos modes de vie, alors que pas du tout. Bon allez, je me dépêche, hâte de raconter tout ça à maman.
On se disait, c'est pour demain. J'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
C'est ici que notre balade à vélo s'achève. Tous ces témoignages ont bien de quoi nous faire rêver et nous redonner de l'espoir. Mais s'ils allaient encore plus loin ? Oui, concrètement, que faire si je souhaite intégrer un habitat participatif ou créer mon écolieu ? Pour passer du rêve à la réalité, vous pouvez par exemple rejoindre le groupe Facebook Eco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais, qui met en réseau et donne des outils, par exemple à travers des rencontres thématiques, et qui encourage la réalisation de projets d'habitat groupé participatif dans la région. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Habitat Participatif France qui répertorie plein de projets favorisant le développement de l'habitat participatif sur l'ensemble du pays. Je mentionnerai pour finir la carte des oasis disponible sur le site Colibri www.colibri-lemouvement.org. Elle recense tous les écoliers de France. En bref, si tu veux te lancer, tourne-toi vers celles et ceux qui sont déjà dans l'action. Va dans les tiers-lieux ou les cafés citoyens de ta ville, pars à la rencontre des différents acteurs institutionnels du domaine, et voilà. D'ailleurs, si le thème des écolieux t'intéresse, voire te fait carrément vibrer, l'association Choisis ta planète, membre du réseau MRES, recherche des bénévoles afin d'aller filmer des écolieux cet été et de faire du montage vidéo. L'équipe filmera des courts-métrages joués par des enfants pour sensibiliser aux démarches durables. Il reste quelques places dans l'équipe, alors si tu es baroudeur ou baroudeuse et que tu te sens prête ou prêt à t'investir et à interagir avec des enfants pendant tout le mois de juillet, Contacte-les via leur page Facebook Choisis ta planète ou leur site internet choisistaplanète.com en précisant qu'il s'agit du projet France Action. Mais attends, pars pas, j'ai encore un truc à te dire. Agissons a été créé dans le cadre de l'Université populaire et permanente de la jeunesse. L'AMRES et RPL Radio se sont associés en 2018 pour que notre émission voie le jour. Vous avez envie de rejoindre notre équipe pour animer ce magazine radio avec nous ? Ça tombe bien, l'équipe recherche de nouvelles recrues. Si vous êtes intéressé par le thème de l'environnement et de la transition écologique, que vous savez écrire, faire du montage son, vidéo, ou tout simplement que vous voulez vous engager, alors n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Agissons RPL Radio ou par mail à l'adresse radio@mres-asso.fr. En attendant, on vous dit au mois prochain pour une émission sur la radicalité. Ça promet.
Valise et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier oursin. Penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main.